Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et après, nous allons vous également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. L'heure suivante, comme d'habitude, nous allons présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous pouvez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie prépare 5 destinations touristiques pour les délégations de la réunion de la Banque mondiale et du FMI. La Russie prépare une visite d'État en Indonésie. L'Indonésie offre des méga-projets à la Chine pendant la conférence One Belt, One Road. L'engagement de la Corée du Sud pour renforcer la coopération d'investissement du commerce avec l'Indonésie. Le Parlement souhaite que les résolutions de l'Union européenne liées à l'huile de palme soient observées. Bappenas a dit « Le développement économique local était crucial pour l'Indonésie ». Voici le journal complet. L'Indonésie accueillera la réunion annuelle du Fonds monétaire international et la Banque mondiale en 2018. Cette réunion se tiendra à Nusa Dua, Bali, en octobre 2018. Le ministre de coordination maritime, Luhut Binsar Panjaitan, a dit que 12 jusqu'à 15 000 personnes seront présentes à Bali. L'Indonésie prépare 5 destinations touristiques pour les délégations de la réunion annuelle.
Danau Toba, Borobudur, Borobudur apa namanya itu? Otorita, jadi Borobudur.
Lak Toba, Borobudur, Karimun Jawa, e Yogyakarta du Sud, e Bali, Labuan Bajo, Tanah Toraja, nous avons préparé ces sites touristiques. En effet, il y a des fonds supplémentaires, mais d'après nous, ils ne sont pas de problème. Selon le ministre Luhut, le ministère des Finances est en train de calculer des fonds supplémentaires pour préparer les destinations touristiques. Comme par exemple à Bali, le gouvernement va construire des infrastructures et des passages souterrains. Les projets du développement d'infrastructures pour le développement des sites touristiques seront faits par le ministère des Travaux publics et de l'usement public. Au milieu de nombreuses visites d'État menées par plusieurs chefs d'État en Indonésie, comme le roi Salman bin Abdul Aziz Al Saud d'Arabie Saoudite et le roi Carl XVI Gustave de Suède, l'ambassadeur de Russie en Indonésie, Michael Yurievich Gagarin, a déclaré lors d'une conférence de presse à Jakarta mercredi le 24 mai, la Russie prépare une visite d'État en Indonésie. Néanmoins, la Russie ne voulait pas dépêcher de faire la visite d'État, de sorte que le résultat sera significatif et couvrira tous les secteurs de coopération. Nous préparons maintenant le sommet des deux pays. Selon nous, ce sommet doit être bien préparé et devrait aboutir à des accords significatifs dans tous les domaines de notre coopération du secteur politique, de sécurité, du commerce, de l'économie, de l'investissement, de la culture et de l'éducation. C'est la coopération dont nous préparons maintenant avec nos amis indonésiens. Auparavant, l'ambassadeur Michael Galusian a déclaré que l'Indonésie avait invité la Russie, comme le président Joko Widodo, au président Poutine lors du sommet russe-indonésien en 2016 et la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Maksudi au ministre Sergei Lavrov pendant la date exacte de la visite n'est toujours pas annoncée. L'Indonésie a offert 3 mégaprojets à la Chine lors de la conférence One Belt, One Road à Beijing en Chine récemment. Le ministre coordinateur indonésien pour les affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que la Chine considère que l'Indonésie est un bon partenaire d'investissement. Aux médias, le ministre a expliqué mardi le 23 mai 2017 que l'Indonésie avait offert 3 domaines en Chine pour des investissements. Le ministre Luhut a également déclaré que les 3 zones sont Bitung dans le nord de Sulawesi, Kalimantan du Nord et Sumatera du Nord.
Proyek itu kita ambil satu adalah di Bitung. Bitung itu terintegrasi. Ada tol route-nya, ada.
Nous prenons un projet à Bitung. Bitung sera intégré à la route de péage, au train, à l'aéroport, au port, au quartier industriel et à la propriété. Puis le nord de Kalimantan a la capacité de construire 7200 MW d'électricité. Nous voulons également créer une fonderie. Le troisième est Sumatra du Nord. Le ministre Luhut a également déclaré que Bitung avait besoin d'un aéroport international parce que l'aéroport à Manado ne suffit pas. Alors que les touristes de Chine à Manado ont augmenté à 1200%. Une voie ferroviaire pour le train à Gorontalo sera également construite. Par conséquent, les touristes ont un accès facile à la destination touristique comme Bunaken et Wakatobi. Le ministre Luhut a également expliqué pour le nord de Kalimantan, l'entreprise chinoise CITIC investira. L'infrastructure de Kuala Tanjung à Parapat jusqu'à Sibolga, Sumatra Nord, sera également construite. La route intégrée sera également construite pour relier le nord de Sumatra à Pekanbaru, Duri et Dumai. Le gouvernement sud-coréen est déterminé à améliorer les relations avec le gouvernement d'Indonésie et d'autres pays de la région de l'ASEAN. En outre, le gouvernement sud-coréen a également exprimé leur forte volonté d'investir dans le commerce avec le gouvernement indonésien. Cela a été dit par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo lors d'accueillir les envoyés spéciaux du président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, à l'Indonésie, à savoir Cho Yong-jeon, Kim Hun-so, Lee Sang-hwa et Jeong Do-dam. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a expliqué au Palais de Bogor mardi le 23 mai 2017, les envoyés spéciaux du gouvernement sud-coréen ont également transmis au président Joko Widodo que le président Moon veut tenir une réunion bilatérale avec le président Joko Widodo en marge du sommet du G20 à Hambourg, juillet 2017. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également ajouté qu'ils avaient également exprimé leur ferme engagement à investir dans le commerce avec l'Indonésie. Retno Marsudi a affirmé que la coopération qui existe entre l'Indonésie et la Corée du Sud existe depuis longtemps. Cependant, le nouveau gouvernement sous la présidence de Moon Jae-in a été déterminé à faire le renouvellement de l'engagement de collaborer pour être plus fort. L'agence de coopération interparlementaire BKSAP du Parlement souhaite que la résolution de l'Union européenne liée à l'huile de palme et la déforestation, qui était considérée comme un effet défavorable pour l'Indonésie, puisse être observée. Le président de BKSAP du Parlement indonésien, Nur Hayati Ali Assegaf, dans une déclaration écrite mardi, a déclaré « L'Indonésie était un pays qui a un fort engagement à la réalisation du développement durable. » Elle a dit « L'Indonésie était également devenu un pays leader dans la ratification de la recommandation de l'accord de Paris ou le traité de Paris sur le changement climatique mondial. » À cette fin, Nur Hayati a également demandé que la résolution de l'huile de palme puisse être annulée en considérant l'engagement de l'Indonésie au développement durable. Auparavant, le gouvernement a réitéré son engagement à continuer de soutenir l'industrie de l'huile de palme parce que l'industrie a fait ses preuves à apporter une contribution importante à l'économie nationale, apporter des devises et de l'emploi. Le ministre du Plan national de développement entend également le chef de l'Agence de planification pour le développement national, BAPENAS, Bambang Brojonegoro, a déclaré que le développement économique local était crucial pour l'Indonésie, car il peut soutenir la performance de croissance de l'économie nationale. Par conséquent, sa partie s'efforcera à activer le secteur productif pour construire des infrastructures et encourager les investissements, en particulier dans les régions. C'est ce qu'a affirmé Bambang à l'inauguration de la coopération entre l'Indonésie et le Canada pour le développement de l'économie locale mardi. Il a dit « Le mouvement des activités économiques continue de croître les économies locales pour contribuer à l'économie nationale de continuer à croître et à se déplacer face aux défis mondiaux. » En outre, le développement économique régional est également important en raison de la rotation de l'activité économique régionale, nécessitera des effectifs supplémentaires et d'élargir simultanément les possibilités d'emploi. En outre, Bambang Brojonegoro a affirmé le développement économique local avait un rôle important en raison de la rotation des activités économiques locales fournira plus d'espace pour l'auteur des coopératives, petites et moyennes entreprises. Secrétaire, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le maintien de la tolérance de l'Indonésie a inspiré d'autres pays ». Le président indonésien Joko Widodo a révélé que beaucoup d'autres pays étaient jaloux à l'Indonésie, car bien que l'Indonésie ont des différents aspects tels que l'ethnicité, la langue, la culture, même la religion, mais elle est toujours en harmonie, plein de tolérance, de fraternité et l'unité. Lors d'un rencontre avec les dirigeants interconfessionnels regroupés dans l'Association des Forums de l'Harmonie des Communautés Religieuses au Palais de Bogor, mardi, il a déclaré qu'aucun pays dans le monde qui était très diversifié, y compris en matière de religion comme l'Indonésie. L'Indonésie a également exprimé l'admiration du monde pour l'Indonésie, notamment sur l'harmonie de la nation étant maintenue pendant 62 ans d'indépendance de l'Indonésie. Cela a été exprimé directement au président Joko Widodo par plusieurs chefs d'État qui avaient été rencontrés, comme président palestinien Mahmoud Abbas et le président de l'Afghanistan Ashraf Ghani. Ces dirigeants du pays ont demandé au président de maintenir l'harmonie et l'unité de l'Indonésie, comme par exemple le message spécial qui a été transmis par le président de l'Afghanistan Ashraf Ghani lors de sa visite en Indonésie au début d'avril 2017. Il était impressionné par la diversité indonésienne, beaucoup de tribus, de religions, de langues locales, et le président de l'Afghanistan a conseillé au président Joko Widodo pour maintenir l'harmonie et l'unicité de l'Indonésie. On espère l'admiration d'autres pays ne font pas l'Indonésie d'être complaisante, parce que la menace qui pourrait compromettre l'harmonie et l'unité peut venir de l'intérieur et l'extérieur du pays. L'histoire a noté, autrefois, chaque région en Indonésie a lutté au niveau local contre les envahisseurs, mais les résultats sont moins efficaces. Et puis, avec l'esprit d'unité, l'Indonésie a finalement accédé à l'indépendance. C'est normal si dans la vie il y a une différence de vous. La friction est le mal de compréhension. Mais on espère que toutes les différences deviennent l'apprentissage qui pourrait renforcer l'Indonésie d'être la nation plus souveraine. L'Indonésie doit continuer à faire d'autres pays son jaloux avec l'esprit de tolérance et d'unité. L'admiration d'autres nations pourrait être la motivation de l'Indonésie pour maintenir la tolérance. La diversité, l'unité et la tolérance peuvent être l'inspiration des autres pays afin de créer un monde plus pacifique. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 25 mai 1958, Ismail Marzuki, un héros national de l'Indonésie et l'auteur-compositeur, est mort. Son nom est maintenant immortalisé comme un centre d'art à Jakarta, Taman Ismail Marzuki, dans la région de Cikini, Jakarta. Une chanson écrite par Ismail Marzuki, qui est le plus populaire, est Rayuan Pulau Kelapa. En 2004, il a été couronné l'un des héros nationaux indonésiens. Le 25 mai 1963, création de l'Organisation de l'Unité africaine. L'Organisation de l'Unité africaine a été initiée par Kwame Nkrumah du Ghana et Ahmad Sékou Touré de Guinée. L'organisation vise à unir les pays africains, résoudre des conflits entre les membres et lutter l'indépendance des pays africains qui sont encore colonisés. En 2002, à la conférence des chefs des pays africains en Afrique du Sud, l'organisation a changé son nom à l'Union africaine visant à élargir la coopération économique en Afrique. Actuellement, l'Union africaine comprend 54 pays et le siège est en Éthiopie. Le 25 mai 1979, McDonnell Douglas DC-10-10 d'American Airlines est écrasé à Chicago, Illinois, aux États-Unis. L'avion a décollé à l'aéroport international OR Chicago à Los Angeles. Les accidents ont causé des dommages au moteur d'avion, tuant tous les passagers qui ont totalisé 271 personnes. 13 membres d'équipage et 2 personnes sont mortes sur le terrain. L'accident était jusqu'à présent le plus grand accident d'avion dans l'histoire des États-Unis. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point ayant pour titre La communauté économique d'ASEAN encourage l'expansion des affaires de la franchise aux divers pays en Asie du Sud-Est. La franchise est toujours l'affaire la plus prometteuse en Indonésie. Même l'affaire de la franchise peut être une force de l'économie indonésienne. Le directeur général du ministère du Commerce intérieur, du ministère du Commerce, Cahya Widayanti, à l'ouverture de International Franchise License and Business Concept Expo and Conference, soit IFRA, soit la franchise internationale, licence et concept expo et conférence à Jakarta, vendredi 18 mai, a déclaré que le chiffre d'affaires de franchise a atteint 172 trillions de rupiah par an et a encore le potentiel d'augmenter 10% par an. Les secteurs de la franchise les plus recherchés sont la nourriture et des boissons, l'éducation, la beauté et la santé. Les affaires de franchise fournissent aussi des emplois pour 90 000 personnes. Il a dit qu'actuellement, il y a 700 types de franchises avec 25 000 points de vente en Indonésie. Parmi ceux-ci, jusqu'à 63% sont les franchises locales et le reste étranger. Selon Cahya Vidayanti, le ministère du Commerce encourage toujours les affaires de la franchise en accord avec la règle gouvernementale numéro 42, l'an 2007. Le ministère du Commerce est prêt d'aider les acteurs de la franchise en donnant l'encadrement et la formation. Si la franchise bénéficie d'un accès, l'économie est beaucoup plus avancée. Cependant, un nombre de franchises locales qui ont connu une expansion à l'étranger sont Alfamart, Kebab Baba Rafi et Esteller 77. Cependant, le chef de l'Association de franchises d'Indonésie, AFI, Anang Sukandar, a dit « La créativité de la communauté d'Indonésie de chercher les chances économiques est très grande. Les chances économiques sont obtenues des affaires de la franchise. » Anang Sukandar a dit « L'Association de franchises d'Indonésie a organisé IFRA à GCC Jakarta du 19 au 21 mai 2017. Diverses possibilités de franchise qui sont présentes à IFRA cette fois-ci sont dans l'automobile, de la nourriture et des boissons, la franchise de voyage, la propriété, l'éducation, la logistique, spa et bien-être, de divertissement et d'autres. Un total de 150 entreprises avec 350 marques participent dans l'exposition IFRA en 2017. Et pour thème « Take a chance to become an entrepreneur », AFI invite ses membres et les nouveaux entrepreneurs franchisés potentiels pour développer des affaires, non seulement au niveau national, mais vise des opportunités dans la région d'ASEAN. Il faut qu'on ne considère pas la communauté économique d'ASEAN l'invasion des franchises étrangères en Indonésie. Au contraire, la communauté économique d'ASEAN peut être utilisée comme un moyen pour effectuer la pénétration des entreprises dans divers pays d'Asie du Sud. AFI encourage également les acteurs à étendre les activités en utilisant la technologie numérique. Cela peut se faire grâce à l'utilisation de différentes plateformes de médias sociaux qui existent pour soutenir la campagne numérique ou créer un site qui fournit des informations sur les produits ou les services de franchise offerts. Chers amis, c'était la mise au point.
L'Indonésie accueillera la réunion annuelle du Fonds monétaire international et la Banque mondiale en 2018. Cette réunion se tiendra à Nusa Dua, Bali, en octobre 2018. Le ministre de coordination maritime, Luhut Binsar Panjaitan, a dit que 12 jusqu'à 15 000 personnes seront présentes à Bali. L'Indonésie prépare 5 destinations touristiques pour les délégations de la réunion annuelle.
Danau Toba, Borobudur, Borobudur apa namanya itu? Otorita.
Lak Toba, Borobudur, Karimun Jawa, Yogyakarta Dusut, Bali, Labuan Bajo, Tanah Toraja, nous avons préparé ces sites touristiques. En effet, il y a des fonds supplémentaires, mais d'après nous, ils ne sont pas de problème. Selon le ministre Luhut, le ministère des Finances est en train de calculer des fonds supplémentaires pour préparer les destinations touristiques. Comme par exemple à Bali, le gouvernement va construire des infrastructures et des passages souterrains. Les projets du développement d'infrastructures pour le développement des sites touristiques seront faits par le ministère des Travaux publics et de l'usement public. Au milieu de nombreuses visites d'État menées par plusieurs chefs d'État en Indonésie, comme le roi Salman bin Abdul Aziz Al Saud d'Arabie Saoudite et le roi Carl XVI Gustave de Suède, l'ambassadeur de Russie en Indonésie, Michael Yurievich Gagarin a déclaré lors d'une conférence de presse à Jakarta mercredi le 24 mai, la Russie prépare une visite d'État en Indonésie. Néanmoins, la Russie ne voulait pas dépêcher de faire la visite d'État, de sorte que le résultat sera significatif et couvrira tous les secteurs de coopération. Nous préparons maintenant le sommet des deux pays. Selon nous, ce sommet doit être bien préparé et devrait aboutir à des accords significatifs dans tous les domaines de notre coopération du secteur politique, de sécurité, du commerce, de l'économie, de l'investissement, de la culture et de l'éducation. C'est la coopération dont nous préparons maintenant avec nos amis indonésiens. Auparavant, l'ambassadeur Michael Galusian a déclaré que l'Indonésie avait invité la Russie, comme le président Joko Widodo, au président Poutine lors du sommet russe-indonésien en 2016 et la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, au ministre Sergei Lavrov. Pendant, la date exacte de la visite n'est toujours pas annoncée. L'Indonésie a offert 3 mégaprojets à la Chine lors de la conférence One Belt, One Road à Beijing, en Chine, récemment. Le ministre coordinateur indonésien pour les affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que la Chine considère que l'Indonésie est un bon partenaire d'investissement. Aux médias, le ministre a expliqué mardi le 23 mai 2017 que l'Indonésie avait offert 3 domaines en Chine pour des investissements. Le ministre Luhut a également déclaré que les 3 zones sont Bitung dans le nord de Sulawesi, Kalimantan du Nord et Sumatera du Nord.
Proyek itu kita ambil satu adalah di Bitung. Bitung itu terintegrasi. Ada tol route-nya, ada.
Nous prenons un projet à Bitung. Bitung sera intégré à la route de péage, au train, à l'aéroport, au port, au quartier industriel et à la propriété. Puis le nord de Kalimantan a la capacité de construire 7200 MW d'électricité. Nous voulons également créer une fonderie. Le troisième est Sumatra du Nord. Le ministre Luhut a également déclaré que Bitung avait besoin d'un aéroport international parce que l'aéroport à Manado ne suffit pas. Alors que les touristes de Chine à Manado ont augmenté à 1200%. Une voie ferroviaire pour le train à Gorontalo sera également construite. Par conséquent, les touristes ont un accès facile à la destination touristique comme Bunaken et Wakatobi. Le ministre Luhut a également expliqué pour le nord de Kalimantan, l'entreprise chinoise CITIC investira. L'infrastructure de Kuala Tanjung à Parapat jusqu'à Sibolga, Sumatra Nord, sera également construite. La route intégrée sera également construite pour relier le nord de Sumatra à Pekanbaru, Duri et Dumai. Le gouvernement sud-coréen est déterminé à améliorer les relations avec le gouvernement d'Indonésie et d'autres pays de la région de l'ASEAN. En outre, le gouvernement sud-coréen a également exprimé leur forte volonté d'investir dans le commerce avec le gouvernement indonésien. Cela a été dit par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo lors d'accueillir les envoyés spéciaux du président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, à l'Indonésie, à savoir Cho Yong-jeon, Kim Hun-so, Lee Sang-hwa et Jeong Do-dam. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a expliqué au Palais de Bogor mardi le 23 mai 2017, les envoyés spéciaux du gouvernement sud-coréen ont également transmis au président Joko Widodo que le président Moon veut tenir une réunion bilatérale avec le président Joko Widodo en marge du sommet du G20 à Hambourg, juillet 2017. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également ajouté qu'ils avaient également exprimé leur ferme engagement à investir dans le commerce avec l'Indonésie. Retno Marsudi a affirmé que la coopération qui existe entre l'Indonésie et la Corée du Sud existe depuis longtemps. Cependant, le nouveau gouvernement sous la présidence de Moon Jae-in a été déterminé à faire le renouvellement de l'engagement de collaborer pour être plus fort. L'agence de coopération interparlementaire BKSAP du Parlement souhaite que la résolution de l'Union européenne liée à l'huile de palme et la déforestation, qui était considérée comme un effet défavorable pour l'Indonésie, puisse être observée. le président de BKSAP du Parlement indonésien, Nur Hayati Ali Assegaf, dans une déclaration écrite mardi, a déclaré « L'Indonésie était un pays qui a un fort engagement à la réalisation du développement durable. » Elle a dit « L'Indonésie était également devenue un pays leader dans la ratification de la recommandation de l'accord de Paris ou le traité de Paris sur le changement climatique mondial. » À cette fin, Nur Hayati a également demandé que la résolution de l'huile de palme puisse être annulée en considérant l'engagement de l'Indonésie au développement durable. Auparavant, le gouvernement a réitéré son engagement à continuer de soutenir l'industrie de l'huile de palme, parce que l'industrie a fait ses preuves à apporter une contribution importante à l'économie nationale, apporter des devises et de l'emploi. Le ministre du Plan national de développement entend également le chef de l'Agence de planification pour le développement national, BAPENAS, Bambang Brojonegoro, a déclaré que le développement économique local était crucial pour l'Indonésie, car il peut soutenir la performance de croissance de l'économie nationale. Par conséquent, sa partie s'efforcera à activer le secteur productif pour construire des infrastructures et encourager les investissements, en particulier dans les régions. C'est ce qu'a affirmé Bambang à l'inauguration de la coopération entre l'Indonésie et le Canada pour le développement de l'économie locale mardi. Il a dit « Le mouvement des activités économiques continue de croître les économies locales pour contribuer à l'économie nationale de continuer à croître et à se déplacer face aux défis mondiaux. En outre, le développement économique régional est également important en raison de la rotation de l'activité économique régionale, nécessitera des effectifs supplémentaires et d'élargir simultanément les possibilités d'emploi. En outre, Bambang Brojonegoro a affirmé le développement économique local avait un rôle important en raison de la rotation des activités économiques locales fournira plus d'espace pour l'auteur des coopératives, petites et moyennes entreprises. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Ce soir, nous vous invitons à faire le voyage à Sulawesi du Sud et profiter. L'un des plats de cette région, c'est le paria kambu. Le paria ou pare est également connu sous le nom de la margos ou le melon amer. Il est une plante rampante ou grimpante originaire des régions tropicales de l'Asie, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Il a la forme d'un concombre et mesure de 7 jusqu'à 25 cm de long. La peau rugueuse comme épineux et il est trop amer. Cette plante est généralement cultivée comme légume et la médecine. Dans les pays d'Asie orientale comme le Japon, la Corée et la Chine, le melon amer est utilisé pour le traitement comme plante médicinale ou la médecine à base de plantes. Le melon amer, en Indonésie appelé le pare ou le paria, est également transformé en divers aliments. Surtout dans le sud de Sulawesi, le paria est transformé en nourriture appelée le paria kambu. Kambu en langue Makassar signifie le contenant. Ainsi, le paria kambu signifie le paria rempli avec du poulet ou du poisson. pour le faire, l'intérieur du paria d'abord est nettoyé et ensuite coupé en plusieurs morceaux. La partie vide est remplie d'un mélange de noix de coco râpées frites et poissons cuits. Les types de poissons selon les goûts. Les deux matériaux sont ensuite broyés et insérés dans une part de paria. En complément, ajoutez le poivre, l'ail et l'oignon, accompagnés de la citronnelle finement broyée ainsi que le blanc des œufs. Le lait de noix de coco est ensuite cuit jusqu'à ébullition. Lorsque le lait a bouilli, le paria, qui est déjà rempli de matière, a ensuite été mis dans la pâte avec le lait de noix de coco et puis cuire jusqu'à cuisson. N'oublie pas d'ajouter le sel au goût. Le paria cambo est délicieux quand il est mangé avec une portion de riz chaud. Maintenant, il n'est pas facile de trouver le paria cambo. Il est vendu pendant le mois Ramadan et servi comme le menu d'iftar. Le prix est bon marché, environ 3000 rupiah jusqu'à 5000 rupiah par pièce. Le paria cambo est l'un des plats de Makassar, Sulawesi du Sud, et mettons plus difficile à trouver. Et pour populariser cette nourriture traditionnelle, le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative de Makassar a tenu Traditional Food Vaganza qui a lieu du 20 au 21 mai 2017 au Monument de Mandala, Makassar. On a présenté diverses cuisines de Makassar, la cuisine traditionnelle et moderne. Traditional Food Vaganza 2017 a présenté des plats traditionnels qui deviennent plus modernes afin qu'ils puissent attirer l'attention du public. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Et chers amis, n'oubliez pas, dans la prochaine à venir, la Voix de l'Indonésie va organiser le quiz international et vous pouvez participer à ce quiz. Chers amis, dans un proche avenir, la Voix de l'Indonésie va organiser de nouveau le quiz international. Nous souhaitons que vous puissiez participer à ce quiz, donc écoutez toujours la Voix de l'Indonésie.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Auditeurs et auditrices de la Voix de l'Indonésie, avec moi ce soir Yubi Suryanto, je suis ravi de vous revoir dans la rubrique L'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je vous présente une information sur la canne magique pour les aveugles. Restez toujours avec nous à www.voi.co.id. les personnes ayant la déficience visuelle auraient de la difficulté dans leur vie quotidienne, en particulier en termes de la mobilité. Ils se perdent aussi souvent, notamment lorsqu'ils entrent dans une nouvelle zone. Les bâtons classiques qu'ils utilisent ne sont souvent pas suffisants pour répondre à leurs besoins. Ces bâtons conventionnels ont des limites où l'angle de la distance est limité à un certain point du long de la canne. De même sur la distance et l'angle de la barrière de détection d'objets qui sont très limités. Concernant les problèmes, trois étudiants de la faculté d'ingénierie de l'Université d'Indonésie ont produit une canne électronique avec les systèmes radar et systèmes de positionnement global ou GPS pour les personnes ayant une déficience visuelle. La canne magique a la même façon d'opération que les cannes en général. La seule différence, ce bâton est supplémentairement équipé avec un projet de radar, un GPS et un guide. Cette canne électronique rapide et sécurisée est un dispositif mécanique qui sert d'outil pour les aveugles. Ce bâton qui pèse d'environ 1,5 kg et d'une longueur de 1 mètre a déjà passé une phase d'expérimentation et a été testé le confort et la sécurité de la façon ergonomique directement aux personnes aveugles. Par rapport à la canne classique, cette canne électronique a des avantages supérieurs parce qu'elle peut identifier ou mapping des objets sur plus d'un œuvre de la face, la droite et la gauche des utilisateurs sans poser de difficultés. Non seulement cela, c'est également capable d'envoyer les coordonnées de la position d'utilisateur pour les parents avant que les personnes aveugles ne se soucient pas à se perdre. Cet avantage vient d'un radar et de fonctionnalités de GPS équipés dans la canne. Le système de radar est tenu à partir de trois pièces de contrôleur de distance à ultrason et un servomoteur capable de mapper des objets barrières autour des aveugles avec une portée maximale de 3 mètres de distance et de l'angle de la gamme 180 degrés avec ce radar. Les personnes aveugles peuvent voir les circonstances autour d'eux informées par une forme de vibration sur son guide. Le plus proche de l'objet de la barrière, le moteur de vibration dans le guide sera plus élevé. Quand la fonction de GPS permet aux aveugles d'informer leur position à leur famille par le point de coordonnées, en appuyant sur le bouton d'urgence sur le bâton, l'outil envoie une position à leur famille via le réseau de GSM dans le format de selfies de messages courts qui peut être lu par une application. On arrive à la fin de l'édition de l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui dont le sujet est la canne magique pour les aveugles. Nous vous reviendrons dans la prochaine édition de l'Indonésie en couleur avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers fidèles amis de la voix d'Indonésie des quatre coins du monde, bonsoir. Voici le magazine musical, un programme qui présente les musiques pop et traditionnelles d'Indonésie. Comme d'habitude, nous commençons aujourd'hui le magazine musical. Pour l'édition ce soir, un chanteur qui est connu à l'ère 80 à 90, Bram Moussas. Pour ouvrir notre rencontre, voici Bram Moussas et Diana Manusama avec sa chanson intitulée Kidung. Bonne écoute.
Begitu ceria.
Serviteur, c'était la chanson de Bram Moussas et Diane Manusama intitulée Kidung. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Serviteur, à l'ère de 80 jusqu'à 90, la plupart des poèmes des chansons pop indonésiennes comme la chanson Kidung touche vraiment le cœur et pas facile à perdre de la mémoire, surtout pour ceux qui sont amoureux ou tombés amoureux. Bon, serviteur, voici la chanson suivante de Bram intitulée Honnête. Bonne écoute.
Selamanya, oh.
Jusqu'à présent, les chansons sont connues aux années 80 à 90 sont encore stockées dans le mémoire parce que les notes et les paroles de la chanson à ce moment-là est conforme à la station du cœur. Toucher le cœur n'est pas facile à oublier. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson de Bram intitulée Keedanan. Bonne écoute et à bientôt.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. C'était quelques chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Chers amis, avant de terminer cette émission, je vais vous informer que dans un proche avenir, La Voix de l'Indonésie va organiser de nouveau le quiz international. Vous pouvez participer à ce quiz, donc écoutez toujours La Voix de l'Indonésie. Chers amis, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.